Véritable vade-mecum de la compréhension de la Chine contemporaine à travers le prisme de la psychanalyse, l'ouvrage de Philippe Poret, le premier du genre, est à mettre entre toutes les mains, car il ouvre des perspectives inattendues, non seulement sur l'inconscient chinois à la lumière d'une lecture lacanienne, mais il aide à mieux saisir la pensée chinoise et son histoire au XXe siècle. La Chine vit aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Quelle place font les Chinois à Freud et comment les Français vivent-ils la psychanalyse en Chine ? J'ai rencontré Philippe Poret à Paris, dans les locaux de la Société de psychanalyse freudienne, rue Campagne Première, dans le quartier Montparnasse, et dans l'immeuble où vécut le peintre Fujita dans les années 20. C'est vous dire si l'architecture est intéressante. D'ailleurs, juste à côté de l'hôtel Istria, juste à côté de cet immeuble, se trouve l'hôtel Istria, où vécurent Duchamp, Kissling, Picabia, Kikine Montparnasse, Rilke, Tristan Tzara, Eric Satie. Man Ray, Vladimir Maniakovski, Elsa Triolet, Aragon et Adjé ont aussi vécu dans cette même rue qui abrite une des plus belles façades art déco de Paris. Donc une rue historique, pour un lieu tout à fait historique aussi, car la Société de psychanalyse freudienne, c'est quand même aussi historique. Alors je vous propose d'écouter Philippe Poret. Philippe Poret, bonjour.
Bonjour.
Alors comment et pourquoi est né ce livre « La Chine de la psychanalyse » ?
J'avais envie de l'écrire parce que d'abord je suis un des acteurs parmi beaucoup d'autres du passage de la psychanalyse française en Chine. Donc ça fait 4-5 ans que je travaille sur ce projet avec d'autres collègues et donc ça m'intéressait pour une part de rendre compte de cette expérience. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire un travail d'historien, c'est-à-dire de comprendre quand, comment et sous quelles conditions la Chine et la psychanalyse s'étaient rencontrées. Et je pensais encore un peu naïvement que la Chine et la psychanalyse étaient deux jeunes amoureux, et force m'a été de constater que c'était plutôt de vieilles connaissances et qu'il fallait repartir d'abord pour rencontrer les prétendants à la fin du 19e et pour comprendre le sens et les enjeux de cette rencontre à partir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire 17e et 18e siècle.
Alors, quand la psychanalyse a-t-elle réellement franchi la Grande Muraille ?
Alors, elle a commencé à franchir ce que vous appelez la Grande Muraille peu après la première révolution chinoise, c'est-à-dire 1911, Sun Yat-sen. Mais il faut bien avoir en tête que, contrairement à tous les autres pays où la psychanalyse est venue, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Amérique latine, qu'il s'agisse plus tard du Maghreb, la psychanalyse, là, est venue dans le bagage de ce que les Chinois appelaient ces diables d'étrangers, les impérialistes. C'est-à-dire que la psychanalyse est venue dans la suite des guerres coloniales et de l'occupation de la Chine, essentiellement par l'Angleterre, son premier belliciste, l'Allemagne, la France, le Japon, la Russie et quelques autres pays. Et c'est dans la suite, dans les bagages au fond de ces envahisseurs et dans le développement par ces envahisseurs de ce qu'on a appelé la civilisation des côtes, c'est-à-dire les ports, puis ensuite les concessions internationales, la concession française, etc., que des livres sont venus, que des ouvrages ont été lus et que donc des premières traductions et des premières explicitations de ce qu'était la psychanalyse se sont faites en gros aux alentours de 1920.
Quels ont été les passeurs de la psychanalyse en Chine ?
Alors, les premiers passeurs ont été... Alors, il y a plusieurs modes de passage. Les premiers passeurs ont été des lettrés formés la plupart du temps aux États-Unis ou en Angleterre, donc qui découvraient en Europe ou en Amérique des textes traduits. Autrement dit, la plupart du temps, pour cette première filière-là, le Freud anglais, le Freud qui écrivait en allemand, traduit ensuite en anglais, et c'est ce Freud anglais qui va être ensuite traduit en chinois. Ça, c'est la première filière, et donc un certain nombre de textes ont commencé à circuler en Chine dans ces années-là. Il y a une autre filière assez intéressante et assez beaucoup moins connue, qui est par le Japon, car dans les années, justement, 1910 et puis quelques années après, il y a un flux très important d'étudiants, d'échanges universitaires, plutôt dans le sens Chine-Japon que dans l'autre sens. Donc des Chinois vont se former au Japon parce que le Japon, du fait des Meiji, était en Asie la première puissance ouverte à l'Occident. Donc les Chinois vont au Japon, ils découvrent la psychologie, qui est une science qui ne s'enseignait pas en Chine, ils découvrent des auteurs, ils découvrent des pédagogues. Le Japon, pour un tas de raisons, y compris militaires, s'intéresse à l'Allemagne. On parle donc beaucoup plus facilement l'allemand au Japon. C'est donc cette fois-ci un Freud plutôt allemand que les Chinois découvrent au Japon et qu'ils ramènent en Chine.
Alors finalement, aujourd'hui, la vraie langue véhiculaire de la psychanalyse, c'est le français, l'anglais, le japonais, l'allemand ?
Alors, la langue vernaculaire, c'est le chinois. La langue véhiculaire, ce serait l'anglais, pour le meilleur et pour le pire, avec une exception culturelle naturellement française. Je vais dire un mot dans quelques instants. Pour l'anglais, parce que dans mon livre, je me suis intéressé un peu à la situation globale de la psychanalyse en Chine, c'est-à-dire tous les courants, toutes les influences, en constatant d'ailleurs que la psychanalyse aujourd'hui se développe toujours via les trois premières puissances qui ont occupé la Chine, à savoir l'Angleterre, les États-Unis, si on considère que ça fait une seule puissance du fait de l'anglais, l'Allemagne et la France. Alors, pour ce qui concerne la France, il y a vraiment une histoire assez intéressante et très spécifique. Donc, dans les années 80, un Chinois de Chengdu, donc la province du Sichuan, celle où il y a eu le tremblement de terre, récemment, donc un Chinois décide, pour un tas de raisons que j'explique dans le livre et qui sont d'ailleurs assez intéressantes, assez biographiques pour ce personnage, décide de venir en France apporter des rêves de Chinois à Jacques Lacan. Ce jeune Chinois vient en France et découvre que, malheureusement pour lui, Lacan était mort depuis 4 ans déjà. Il s'ensuit un grand chagrin, quelques ennuis. Ensuite, il décide néanmoins de faire une psychanalyse avec un Français, ce qu'il fera, et quelques années plus tard, il revient en Chine, dans sa province du Sichuan, à Chengdu, province qui avait été autrefois marquée par la présence française, pour ceux qui connaissent Lucien Baudard, etc. Enfin, le père de Lucien Baudard, et Lucien Baudard en parle beaucoup. Et ensuite, donc, ce Chinois prend en analyse deux Chinois, eux-mêmes professeurs d'université, à l'université. Et petit à petit, le Chinois, celui qui avait fait l'analyse en France, va créer un centre de psychanalyse, créer une formation. Et à ce jour, en Chine, cette bouture est la seule d'abord à s'instituer très clairement centre de psychanalyse, donc les membres se considèrent et s'affichent comme des psychanalystes pratiquant seulement la psychanalyse. Et surtout, l'autre originalité, c'est que le fondateur, donc qui s'appelle Huo Datong, a posé le fait que pour travailler la psychanalyse, il fallait la lire dans la langue de son auteur, en l'occurrence Jacques Lacan. Donc il a posé aux Chinois de son centre la quasi-obligation d'apprendre le français. Donc il y a une psychanalyse française en Chine.
Donc une importante école. Le français dont vous parliez, c'était Michel Guibal.
C'est ça.
Alors pourquoi Lacan a-t-il tant de succès en Chine ?
Alors Lacan a du succès en Chine. Il n'a peut-être pas autant de succès qu'on le croit, mais enfin il a du succès pour deux raisons, je crois. La première, parce qu'il a une visée structurale et que peut-être les Chinois, pour un tas de raisons, y compris qui tient à leur langue, ont un rapport assez structural aux choses. Ils peuvent aussi avoir un rapport structural parce qu'ils sortent à peine de 70 ans de marxisme. Donc il y a une proximité, je dirais, conceptuelle en termes de structuralisme, simplement. Et ensuite, parce que Lacan, quant à lui, a toujours trouvé que le chinois présentait, en tant que langue, le chinois présentait un modèle intéressant qui lui paraissait analogue à ce qu'il appelle, lui, le signifiant. Autrement dit, dans la langue chinoise, contrairement à beaucoup d'autres langues, il n'est pas très évident de déterminer au premier abord si un caractère correspond à un nom propre, à un nom commun, à un verbe. Un adjectif, ça dépend. Parfois, c'est clair à déterminer. Parfois, il faut vraiment le secours du contexte pour le déterminer. Autrement dit, un mot en chinois est parfaitement déterminé par le contexte. Ce qui présente pour Lacan un grand intérêt à un moment donné de son enseignement pour montrer qu'il en va de même pour ce qu'il appelle le signifiant. Donc jamais un mot ne peut se réduire à lui-même, c'est plutôt l'effet du contexte qui le révélera un coup comme ci, un coup comme ça. Donc de Lacan à la Chine, aux Chinois, il y a une proximité. De la Chine au structuralisme de Lacan, il y en avait une aussi, ils étaient faits pour s'entendre.
D'ailleurs, il a lui-même appris le chinois.
Alors, il a appris le chinois à l'école de langues orientales. Ce n'était pas un extraordinaire élève, il parlait quand même le chinois. Et ensuite, il s'est remis au chinois avec un jeune chinois qui arrivait de Chine, qui n'était pas très connu à l'époque, un certain François Cheng, qui est devenu aujourd'hui l'écrivain et l'académicien que l'on connaît.
Alors justement, Huo Datong a dit « l'inconscient est structuré comme un caractère chinois ». Alors comment peut-on faire, nous, pour exporter en Chine nos théories du langage qui sont basées sur un langage occidental ?
Alors c'est une vraie question que vous posez, c'est une question difficile. L'intitulé de Datong a fait grincer plus d'un psychanalyste, qu'il soit lacanien ou pas. Qu'il soit lacanien, parce que la formule d'origine de Lacan est « l'inconscient est structuré comme un langage ». Mais jamais il ne serait venu à l'idée de Lacan d'y assigner une nationalité, car alors, à ce moment-là, d'autres pays peuvent dire, peuvent nationaliser l'inconscient à leur façon. Donc, chez les lacaniens, la formule a dans l'ensemble des plus. Chez les non-lacaniens, les gens ne voient pas très bien de quoi il s'agit. L'inconscient est structuré comme un langage, ça suffit. C'est-à-dire que ça dit une opposition entre le signifiant et le signifié, entre l'énoncé et l'énonciation, entre ce qui est sexuel et ce qui ne l'est pas. Donc, pourquoi rajouter ce chinois ? Donc, du point de vue européen, y a du en trop. Du côté chinois, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça a permis... probablement deux choses. Ça a permis à Huo Datong de pouvoir assimiler, au sens de ce qu'on appelait autrefois l'assimilation, une discipline étrangère en l'intégrant dans le corpus philosophique, surtout national, et donc de faire comprendre aux Chinois que cette science, qui est plutôt vue comme la science de l'Ouest, aurait un caractère basiquement, fondamentalement chinois ou lié à la culture chinoise. Pourquoi pas ? Ça permet aussi peut-être de prendre des distances avec le renouveau hautement idéologique que trouve le confucianisme ou que retrouve ou qu'on fait retrouver aux Chinois et pas seulement aux Chinois d'ailleurs dans tout l'archipel asiatique qu'on redonne au confucianisme. Donc dire que l'inconscient est structuré comme quelque chose de chinois est une façon de dire il y a donc de l'inconscient propre aux Chinois et pas seulement à l'Ouest. Donc si l'on entend par cela, ça me convient tout à fait. Si l'on entend une particularité et que le chinois en tant que langue aurait une spécificité que n'aurait pas d'autres langues, ça me laisse plutôt dubitatif.
Ça veut dire donc que la cohabitation de Freud et de Confucius est possible ?
Alors, l'expérience prouve que pas vraiment. Parce que il y a eu, dans l'histoire chinoise, il y a eu certes 1911, dont on parlait tout à l'heure, donc la première révolution républicaine. Ensuite, il y a eu un mouvement que l'on a appelé le mouvement du 4 mai 1919, qui est au fond qu'on présente en général, avec raison, comme les Lumières, le mouvement des Lumières chinois, autrement dit, une effervescence, une explosion des disciplines littéraires, scientifiques, avec une nouvelle écriture romanesque, un développement du questionnement. Donc, en général, on présente le mouvement de 1919 comme tout d'un coup une vague qui déferle. Oui, c'est vrai, mais pas complètement, au sens que c'est une vague qui était... préparé par deux mouvements qui ont échoué, l'un en 1905, l'autre en 1911. Donc la vague de 1919 correspond à une troisième génération par rapport aux intellectuels de 1905 et de 1911. Donc en 1919, des jeunes de l'université de Pékin trouvent que du confucianisme, précisément, il y en a assez. Il y en a assez parce que le confucianisme interdit qu'on se questionne au-delà de lui-même. Le confucianisme fait qu'un fils reste un fils. Donc le confucianisme fait que l'ordre familial et l'ordre de la langue, celui des lettrés, sont immuables. Or, à cette époque, la Chine a été battue militairement depuis déjà presque 30 ans. La monarchie s'est effondrée, il y a un pouvoir militaire important. Les jeunes commencent à être beaucoup plus en lien avec le développement des sciences et des philosophies occidentales. Il y a une puissance de questionnement très grande. Et donc le mouvement général est quand même de se débarrasser de ce qui fait échouer la Chine. Et la première cible qui est vue, c'est le confucianisme. Alors, est-ce que Freud va profiter de l'aubaine ? Un peu, mais il va très vite être remplacé par ce qu'on appelle le pragmatisme américain, c'est-à-dire la façon dont, pour les jeunes Chinois, on va s'intéresser, pour de bonnes raisons, à la pédagogie, c'est-à-dire comment pourrait-on, autrement que selon la façon confucéenne, apprendre des choses nouvelles et apprendre à apprendre. Et donc, à ce moment-là, les jeunes intellectuels étaient à un carrefour. Il y avait Freud d'un côté et son questionnement sur le refoulement, la sexualité, la sublimation, la création artistique. Et puis, il y a de l'autre le pragmatisme américain, John Dewey, et donc la façon dont on va orienter la pédagogie sur le projet, sur la relation d'apprentissage, sur ce qu'on devient en faisant. Et donc les Chinois, à un moment donné, vont privilégier la deuxième voie au détriment de la première. Et donc on va voir petit à petit, pas tout de suite, mais disons dans les 15 ans qui suivent, une extinction progressive de la démarche freudienne et de ses premières pousses au profit d'une réflexion pédagogique appliquée, intéressante mais fort limitée, avant que la chose s'interrompe complètement du fait de l'invasion japonaise puis de la Seconde Guerre mondiale.
Que gagne la psychanalyse à faire le voyage en Chine ?
Alors ça, c'est une question que se posent beaucoup les psychanalystes. On pourrait dire qu'elle y gagne d'abord une occasion de questionnement sur ses propres fondements, dans la mesure où c'est probablement la première fois dans l'histoire de la transmission de la psychanalyse que la psychanalyse se heurte à un réel obstacle de langue. Lorsque Freud est allé, la phrase est devenue célèbre, lorsqu'il était sur le bateau qui l'emmenait vers New York, il était avec Jung, entre autres, et en arrivant vers le port de New York, il dit à Jung, en parlant des Américains, « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». Autrement dit, la première transmission, celle qu'envisage Freud, est donc dans l'idée que la psychanalyse que les Américains célèbrent, qu'ils vont intégrer très vite, qui a inspiré le cinéma des années 50, la publicité, la com, et qui aujourd'hui est quasi inexistante. Donc la psychanalyse est vue du côté de son fondateur comme un très très grand dérangement de l'American Way of Life ou bien de l'idéologie consumériste ou positiviste américaine. Mais on peut dire que, certes, il y a un obstacle que Freud rencontrait dans justement ce à quoi il amenait la peste, mais donc des années plus tard avec la Chine, c'est une toute autre paire de manches, d'abord parce que la situation de la psychanalyse n'est plus la même, et aussi parce que la Chine fait valoir la différence de sa culture et la différence de sa langue non alphabétique. Donc pour les psychanalystes, il y a là un premier obstacle fécond qui est au fond de réfléchir à comment est-ce possible en ce début de 21e siècle d'amener une science du 19e dans un pays qui est quant à lui étranger aux fondements littéraires et philosophiques qui ont permis l'éclosion de la psychanalyse et aussi en particulier ce qu'on appelle le sujet de la science. Donc il y a pour les psychanalystes une première épreuve. Il y a une deuxième épreuve qui est aussi en même temps historique et politique, c'est-à-dire que la psychanalyse est quand même... elle n'est pas en extinction, mais elle est en difficulté au jour d'aujourd'hui dans un certain nombre de pays européens qui, pour le moment, préfèrent à la psychanalyse les théories cognitivistes, les théories du comportement, etc. C'est un grand recul de la pensée, mais force est de constater que la psychanalyse, et pour le moment, connaît un certain essoufflement, tant théorique, il n'y a pas de nouveaux penseurs vraiment marquants Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ont des idées intéressantes, mais il n'y a pas de gens d'une ampleur des penseurs de la psychanalyse ou des grands cliniciens des années 80-90. Et donc ensuite, il y a une dernière épreuve qui me paraît intéressante pour la psychanalyse, qui est que les Chinois ont une tendance à considérer, pas seulement la psychanalyse, mais les théories occidentales, à peu près dans le même ordre qu'au fond les échanges culturels et commerciaux. Autrement dit, il y a dans l'idée chinoise le fait qu'on échange, on échange des biens, on échange des pensées, on échange des théories, mais ces théories, ces biens ou ces objets, on les reçoit montés, on peut les démonter et les remonter autrement. C'est pour ça que j'avais à un moment donné pensé comme sous-titre à mon livre « La Chine de la psychanalyse », donc ça, ce titre est resté, et j'avais pensé ensuite « Histoire ou mondialisation ». Pour dire que la question de la psychanalyse en Chine est à la fois une affaire d'histoire, mais elle se prend aussi dans les échanges de la mondialisation, c'est-à-dire dans une certaine réification. Donc, et c'est là où j'en reviens à votre question, au fond, quel est l'intérêt pour les psychanalystes? Ben, les psychanalystes, ils sont confrontés au fait que les Chinois, ils prennent dans la psychanalyse ce qu'ils ont envie, ils prennent certains contextes, ils en délaissent plutôt d'autres. Ah oui, seulement, est-ce que la psychanalyse est quelque chose qu'on peut démonter comme ci et remonter comme ça, sans s'interroger sur le fait que les pièces qui sont restées sur l'établi, est-ce qu'elles ne dénaturent pas le projet? Donc cette question-là, elle est tout à fait en cours, elle est tout à fait présente, et donc la question de la Chine en psychanalyse, de la Chine de la psychanalyse, elle est en cours, mais elle connaît aussi beaucoup de difficultés conceptuelles et pas seulement pratiques.
Est-ce que le refoulement collectif obligatoire qui a suivi la révolution culturelle a été important pour la pénétration de la psychanalyse en Chine?
Alors, c'est pas un refoulement, c'est une répression. Mais c'est rigolo parce qu'en anglais, c'est le même mot. Donc refoulement, c'est repression. C'est pour ça que le mot refoulement a beaucoup plu aux Chinois, parce qu'eux, ils l'apprenaient par l'anglais. Et donc repression, ça les intéresse pour un tas de raisons. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu un refoulement collectif après la révolution culturelle, par exemple? Non, je pense pas du tout qu'il y ait un refoulement. Il y a une répression, il y a une interdiction. Non pas tant d'en parler, puisque dans l'art contemporain, on voit par exemple que c'est un sujet iconographique, mais qu'il est possible de... Il est possible de montrer, encore pas tout, mais enfin, il est possible de montrer si c'est à des fins artistiques, il est par contre très très déconseillé d'y réfléchir. Donc, on peut dire, mais pas faire penser ni réfléchir, c'est à ce moment-là que les problèmes se posent. Donc, il me semble que ce n'est pas du refoulement, c'est de la répression. Alors, est-ce que ça a aidé l'arrivée de la psychanalyse en Chine? Pour une part, oui. On peut voir ça dans le trajet de Tai Sitié, l'auteur de Balzac et la petite tailleuse chinoise, le cinéaste en même temps, qui est d'ailleurs un proche de Roda Tong, et dont je raconte l'histoire dans le livre, parce qu'il est un des passeurs involontaires de la psychanalyse. Donc on peut voir ça, oui, ça peut être une aide. En même temps, je pense que c'est plutôt une détermination de la psychanalyse. Et ça rejoint un peu la question que vous me posiez il y a quelques instants, c'est-à-dire que il y a une petite tendance chez les psychanalystes à considérer la Chine comme les Dupont-Dupont. Les Dupont-Dupont, les célèbres policiers de Tintin, dans le Lotus Bleu, à un moment donné, doivent enquêter en Chine. Alors ils se déguisent en chinois, c'est-à-dire pour eux en mandarin du 19e, et on voit sur une des planches que dessine Hergé, les deux Dupont, suivis de toute une bande d'enfants qui rient de ces deux Chinois de Perrette, et les Dupont disent « Ne te retourne pas, je crois qu'on est suivi ». D'une certaine façon, il peut y avoir chez certains psychanalystes français ou étrangers, en particulier américains, une certaine tendance à imaginer que la Chine de la psychanalyse, c'est la Chine immémoriale, c'est la Chine de toujours. Rien n'est plus faux. Je pense qu'au contraire, la Chine, justement celle qui s'ouvre à la psychanalyse, c'est celle qui est encore complètement prise dans la révolution culturelle, autrement dit, qui est encore prise dans les interdictions, les délations, les envois dans les camps, la guerre civile qu'il faut bien appeler par son nom, qu'elle a constituée. Donc c'est en effet ces pages d'histoire extrêmement récentes, il suffit de se dire que les gens qui sont au pouvoir ont en général 70 ans, les gens qui sont les chefs d'entreprise, les patrons de start-up ont entre 35 et 40 ans, Si l'on considère ce pouvoir politique et ce pouvoir économique, ce sont des gens qui ont connu la révolution culturelle, soit comme jeune enfant, soit comme adolescent. Donc la révolution culturelle et ses suites sont toujours là, et le gouvernement a beau être un communisme libéral au sens de l'idéologie libérale, en attendant du libéralisme, en attendant, c'est quand même une dictature. Donc à mon avis, c'est cette Chine-là pour le moment qui détermine la psychanalyse beaucoup plus que Confucius, même si le confucianisme et son renouveau est un obstacle.
Alors justement, est-ce que la psychanalyse et la censure sont compatibles ?
Alors, c'est une question amusante parce que fondamentalement oui, puisque l'inconscient est une censure. Donc si je répondais juste à ces mots-là, oui, elle naît même du rapport à la censure. Maintenant, je comprends votre question. Donc vous parlez de la censure politique. Est-ce que c'est compatible ? Oui et non. C'est compatible, la preuve, puisqu'il y a des psychanalystes et il y a des analysants. Est-ce qu'ils peuvent tout dire sans danger ? Non. On peut avoir le même type de problème, peut-être pas tout à fait. C'était le cas en Amérique latine, qui étaient des dictatures militaires beaucoup plus visibles que la dictature étatique de la Chine. Il y a eu pendant longtemps des analystes et des analysants dans les dictatures en Amérique latine, bien que très vite les analystes aient été obligés d'émigrer. Donc, pendant un certain temps, oui, c'est possible. En même temps, fondamentalement, la psychanalyse suppose la démocratie. Donc, à terme, la psychanalyse, pour qu'elle se développe réellement en tant que psychanalyse, c'est-à-dire avec la puissance de questionnement d'un Freud et la liberté d'un Freud, suppose la démocratie. On peut à cela objecter que tout un courant analytique actuellement d'inspiration américaine ou allemande se développe avec la coopération des gouvernements. Donc le gouvernement chinois laisse organiser et plutôt favorise les échanges internationaux, ce qui montre qu'une certaine psychanalyse est parfaitement tolérée, voire même recommandée par le gouvernement, les pouvoirs publics en tout cas. Est-ce à dire que cette psychanalyse-là et la même puissance de questionnement et la liberté de Freud, ça c'est une question que je laisse ouverte.
Oui, c'est ça. En fait, la psychanalyse qui se développe actuellement a l'air d'arranger le gouvernement. Donc vous dites que finalement, elle vous laisse travailler.
Alors, est-ce qu'elle arrange le gouvernement ? En tout cas, elle ne le dérange pas. Est-ce que la psychanalyse dont je parle, c'est tout à fait la même que celle à laquelle là, nous faisons allusion, pas tout à fait. Donc il y a un problème en Chine qui est un problème qui ne date pas du pouvoir communiste, qui est ce que j'appellerais le problème du plateau tournant. Je m'explique. Quand on va dans un restaurant chinois, contrairement aux usages européens, chacun commande un mets. Et ce mets est mis sur un plateau qui tourne, au centre de la table elle-même ronde, et chacun des convives peut ainsi se nourrir de tel ou tel plat, éventuellement qu'un autre a commandé. Il en va de même pour des raisons qui tiennent pas du tout au pouvoir communiste, mais aux lettrés, au pouvoir des lettrés, donc qui a commencé en l'an 1000, donc ça nous ramène un peu plus tôt qu'hier. Et que donc, il y a une pratique qui est extrêmement différente des usages intellectuels en Europe, qui est que tout ce qui ne contredit pas fondamentalement le pouvoir lettré et le pouvoir de la langue est accepté, à condition que ça ne fasse pas trop de vagues. Donc, c'est accepté à côté. Ce qui veut dire qu'il y a une tendance intellectuelle au syncrétisme, c'est-à-dire à quelque chose qui permet d'additionner des savoirs à condition qu'ils ne se contredisent pas trop et qu'on puisse piocher dans l'un, dans l'autre, dans le troisième. C'est la situation actuelle, la psychanalyse étant, à part pour le centre de Chengdu, étant un des plats parmi d'autres, le plat d'à côté ou le plat d'avant, pouvant, dans d'autres pays, étant totalement contradictoire et inacceptable. Mais peut-être que l'art de la contradiction n'est pas du tout le même en Chine que dans d'autres pays.
C'est comme ça qu'on trouve des temples dédiés à Confucius, à Bouddha ou à Lao Tzu, parfois dans le même temple.
Et à Mao.
Et à Mao.
Il n'est pas rare de trouver dans les temples, comme vous dites, dans le sud, en tout cas je l'ai vu plus d'une fois, donc des représentations de Confucius, de Lao Tzu et de Mao. Il n'y a pas encore Freud, je ne crois pas qu'on le voit de sitôt, mais ça ne serait pas en soi totalement impensable.
Ça correspond en tout cas à leur esprit. Quel est l'impact de la sinologie en France sur la psychanalyse si on fait le voyage dans l'autre sens ?
Alors, c'est quelque chose que j'aborde dans le livre, c'est pour ça que j'ai pris ce drôle de titre, parce que la sinologie française, traditionnellement, est très éloignée, en tout cas pas proche, ça veut dire pas ni adversaire, ni hostile, ni amical, à la psychanalyse. C'était deux champs qui ne se fréquentaient pas jusque assez récemment. Il se trouve que la sinologie française a été agitée par un certain nombre de débats entre ceux qui sont de la discipline et ceux qui sont estimés à l'intérieur de cette discipline comme n'en étant pas tout à fait. Alors, il faut citer à cette occasion le très grand travail de François Julien, philosophe sinologue, qui a développé dans toute une série d'ouvrages la complexité de la pensée chinoise telle qu'il la considère. Il a été extrêmement lu avec profit, il a été aussi extrêmement critiqué par un certain nombre de sinologues qui estimaient quant à eux qu'ils n'appartenaient pas tout à fait à leur champ et que dans la mesure où François Julien amenait un dialogue fécond entre la Grèce, puisqu'il est plutôt helléniste de formation, et la Chine, qu'il connaît très bien, il est resté trop extérieur à leur champ. Il y a eu ensuite un deuxième sinologue suisse, Jean-François Bitter, qui, quant à lui, a amené plutôt la pensée que le travail de François Julien concernait une Chine qui avait existé à un moment donné, mais qui était historiquement datable, et qu'en somme, sans le vouloir ou en le voulant, François Julien aurait poursuivi la pensée lettrée. Donc la critique qui lui venait plutôt de Bitter était de dire « ça n'est pas la Chine, non seulement de maintenant, de nos jours, mais ce n'est pas la Chine moderne, et il faut voir la Chine dans une perspective beaucoup plus historique et moins idéologique ». La querelle a été très vive entre ces deux sinologues, donc un sinologue contre un autre, qui a abouti à une série de livres plus ou moins acérés de l'un contre l'autre. Et tout ça pour dire que les Français, quant à eux, et donc les psychanalystes, y ont trouvé dans ce débat non seulement matière à réflexion, mais matière à ancrage. Et donc, tout d'un coup, la psychanalyse s'est ancrée sur l'un ou sur l'autre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas sur les termes de ce débat. Et donc, on nourrit, les psychanalystes, on nourrit leurs propres assises des avancées de l'un, de l'autre, ou encore des textes plus classiques. Donc, ce qui veut dire que tout d'un coup, les psychanalystes se sont un peu servis, au bon sens du terme, des connaissances sinologiques et des textes classiques chinois. Mais cet usage est bien entendu, n'est pas sans poser de difficultés et n'est pas exempt d'idéologie.
Quels étaient les rapports de Freud avec la pensée chinoise ?
Alors, il a eu des rapports à la fois proches et lointains. Quand on regarde ses textes, il y a des textes où explicitement il fait allusion aux Chinois, les plus connus d'entre eux étant relatifs aux rêves. Donc, Freud utilise... Freud était un collectionneur, donc il y a dans ses collections des statuettes chinoises, bien qu'il soit... plus intéressé et plus orienté par ce qu'on appelait l'orientalisme à l'époque, mais l'orientalisme s'intéressait plutôt à l'Extrême-Orient qu'à la Chine. Donc il y a beaucoup de statuettes égyptiennes, etc. Donc Freud s'intéressait aux écritures, au pluriel, et donc l'écriture du rêve, la façon dont le rêve s'écrit, il l'a comparé aux langues, et il n'en avait que deux à se mettre sous la dent ou sous la main, si je peux dire, relativement à ça, qui étaient les hiéroglyphes, donc du côté de l'Égypte, et le chinois. Donc il y a toute une série de références aux Chinois dans cette perspective de saisir de quoi le rêve est constitué et comment le rêve, au fond, réalise son écriture. Donc le chinois, pour Freud, c'est essentiellement un modèle, quelque chose qui peut modéliser au même titre que Lacan, sauf que Lacan, quant à lui, en a eu une pratique et était beaucoup plus intéressé à la langue que Freud. Freud était un homme de son temps, mais il s'intéressait plutôt à Schliemann, qui lui découvrait Troyes. Donc il était plutôt sur un champ, certes à l'est, mais un peu différent. Il faut quand même noter que, mais ce qui montre aussi les limites de l'intérêt de Freud pour la Chine, un Chinois un jour a écrit à Freud, on en a retrouvé la trace, en lui disant, monsieur le professeur, en Chine, nous sommes très très intéressés par votre pensée et vos livres. En plus, ce n'était pas le dernier, c'était quelqu'un qui est devenu ministre de l'éducation. Et donc, ce Chinois écrit à Freud en lui disant, tous les Chinois devraient avoir dans leur bibliothèque, là il s'avance un peu le Chinois parce que les Chinois n'avaient pas beaucoup de bibliothèques à l'époque, vu le nombre, mais en tout cas tous les Chinois devraient avoir dans leur bibliothèque un de vos ouvrages, et donc le Chinois espère une réponse de Freud quant à une aide conceptuelle, morale, comment faire, etc. Freud répond très poliment, mais de façon un peu distante, quelque chose comme « je suis très touché d'intérêt que vous portez à la psychanalyse, vous pouvez faire des contributions et écrire dans nos revues, en particulier sur les particularités de la langue, on y revient toujours, nous sommes à votre disposition, poussez votre désir et créez, mais l'affaire n'ira pas plus loin ».
Alors, vous citez dans votre ouvrage « La Chine de la psychanalyse » beaucoup l'écrivain chinois Lu Xun. Est-ce que c'est votre écrivain de prédilection ?
Alors, j'aime beaucoup Lu Xun. Est-ce que c'est mon écrivain de prédilection ? Oui, sûrement. Je le cite surtout parce que Lu Xun est, en 1919, donc au fameux mouvement du 4 mai, donc les Lumières, il n'est pas tout à fait un jeune, il est déjà plus âgé que cette génération-là, mais il leur sert de guide. Ça, c'est le premier intérêt. Lu Xun a été formé au Japon, le père de Lu Xun est mort parce qu'il a été mal soigné par la médecine chinoise traditionnelle, il est donc très fâché, il a songé à un moment donné à devenir médecin, c'est un écrivain, il connaît très bien la littérature étrangère, donc occidentale. Donc c'est un homme déjà très en conflit entre les apports classiques de la Chine et ce qu'il pressent de la modernité et des rapports conflictuels entre les deux. Ensuite, c'est donc il est utilisé, ou plus exactement, les étudiants chinois font appel à lui comme, sinon à un guide, du moins à quelqu'un dont ils attendent des directions ou en tout cas des mises en garde. Donc il est l'un des garde-fous, d'une certaine façon, du mouvement du 4 mai 1919. Donc ce qui lui donne, dans le champ littéraire, une acuité particulière. Enfin, il est le premier auteur de cette envergure qui cite Freud. Alors, dans son œuvre, il cite Freud au départ pour mettre en valeur les concepts de refoulement et de sublimation. Donc ça l'intéresse beaucoup, l'origine de la création littéraire, le rapport au désir, le fait qu'il y a du refoulement, donc qu'il y aurait des forces intérieures qui s'opposeraient à d'autres forces intérieures. Toute cette problématique-là l'intéresse. Par contre, il va buter très rapidement, comme c'est souvent le cas, sur l'idée de la sexualité, et là, ça recule. Donc, on prend la psychanalyse, oui, mais sans le sexuel, ce qui là est un énorme problème.
Philippe Poret, merci.
Merci à vous.